L'étrange animal de Béatrice Leca, une réalisation de Michel Sidorov.
C'est une cave, une petite pièce noire. Les pierres montent jusqu'au plafond. Il y a une odeur tiède de granit et de poussière. Il y a des tuyaux en fer, certains fins comme des doigts, d'autres énormes, plissés et qui se courbent lentement les uns au-dessus des autres. Il y a des caisses de bois, une chaise, une ampoule cassée au-dessous d'un fil. Il n'y a rien. La lumière n'entre pas. L'ombre vide entièrement ce rectangle immense et tiède. De l'autre côté, le jour se lève. L'étrange animal reste immobile et silencieux. Il est là. Sa respiration lève un poids invisible. Un effort se contracte et se lâche. Cage thoracique lourde, compliquée. Une grotte de chair s'ouvre et se ferme. On entend presque un soupir. Rien ne bouge cependant. L'ombre noire de la cave étend dans ses yeux des mouvements plus profonds. Des fentes brillantes comme sur les étangs. Une vaste tristesse qui remue. Un charbon parcourt ses écailles serrées, ses poils, ses griffes, sa longue échine. Lorsqu'il dort, l'étrange animal s'affaisse comme une peau dont on aurait sorti les entrailles. Seule sa tête reste sculptée, dure, les deux petites cornes de chaque côté de la gueule, deux virgules d'ivoire inutiles, le front ramassé, les triangles affûtés des oreilles où le poil devient doux comme celui des chats. L'étrange animal dort les yeux ouverts. Parfois sa fourrure est traversée de frissons. Il grogne et ramasse sous son ventre ses pattes courtes, comme s'il se souvenait. Ses dents broient quelque chose avec douceur. Il lèche le sol et gémit. Puis son sommeil l'éloigne à nouveau, au large de la cave. Il arrive qu'en rêvant, l'étrange animal se métamorphose. L'eau l'emporte alors en poisson, dauphin, baleine blanche. Au-dessus de lui, dans des tremblements de verre et de glace, le soleil plonge un immense ray de lumière qui éblouit les bleus, les verts émeraudes de l'eau, nacre les récifs et les épaves, désigne des bancs furtifs, allume de minuscules tremblements d'argent effrayés, ou des branches de corail molles comme des algues. Lorsque dans ses poumons, autour de ses branchies, un fil commence de se serrer, l'étrange animal file, aussi rapide que les courants, fuit le froid profond, remonte d'un élan presque asphyxié vers le ciel mouvant posé au-dessus de lui, le crève d'un bond. De grandes ailes grises le hissent vers la légèreté suave des nuages et bientôt la forêt apparaît au-dessous de lui. Il devient l'écureuil, le renard et le cerf. Il court et grimpe et bondit. Son cœur minuscule affolé par la joie et une inquiétude qu'il ne comprend pas. Sa course ne doit pas s'arrêter. Un fracas toujours le réveille, une catastrophe, un désastre lointain.
Dans les plis des grands rideaux, des pointillés coulent et ouvrent de petites fentes de lumière. La table et la chaise, les murs, les lignes coupent la porte. Cet ordre calme, le matin. L'enfant est réveillé. Les longues aiguilles de l'horloge comptent les derniers silences. Bientôt l'odeur froide et un peu métallique du dehors entrera dans la chambre avec le gris du ciel, le jour tout entier. L'enfant remonte le drap jusqu'à son visage et reste immobile, os sec et léger dessous la peau claire. Il laisse venir les bruits de l'aube, les voix, les pas, des basses qui s'approchent. Quelque chose en lui se dilate et disparaît. Sa présence, son attention se disperse en ces milliers de particules qui forment la présence des choses. Fleurs légères des pissenlits, minuscules étoiles de poussière, un instant suspendues. La trotteuse rouge s'interrompt, et un instant, les sons alentour s'enfoncent dans un silence blanc. Son soupir court le long du drap. Une paix descend en lui. « I'm dead. Je suis mort », pense encore l'enfant. Les paupières closes, deux petites peaux bombées sur l'œuf de l'œil. Les narines s'ouvrent et se ferment à peine. La bouche, les lèvres fraîches. Corail, eau vive, laisse entrer un fil d'air brillant. La poitrine monte et s'abaisse doucement. « I'm dead. » Il laisse son corps s'alléger, bras, torse, jambes transparents et secs comme la gaze. En lui, des nœuds se défont, nids de fines aiguilles brillantes soudain dissous, cailloux, dernière scorie inquiète emportée dans ce courant puissant. Bientôt le sang de ses veines coule sans amertume, intuition ou souvenir, pur comme celui d'un faon, d'un lionceau. Il va disparaître. Dehors, c'est une pluie légère. Le paysage s'amollit. Le gris, le vert des choses coulent et fondent derrière le brouillard. Les longs lambeaux de nuages qui s'étendent vers la terre. On ne voit plus la ville et on ne voit plus le ciel. L'enfant ouvre les yeux. La base de son cœur, au loin, la pièce étrangère, des objets arbitraires épars. Derrière la vitre, il y a l'océan. Et après, l'île qui s'avance avec ses grands animaux immobiles. Une armée debout, 100 000 yeux vides et brillants. La nuit et jusqu'à l'aube, il s'approche de la fenêtre. Cette jungle nerveuse jette sur l'eau des confettis lumineux qui flottent comme des flaques phosphorescentes. Faites blêmes, métamorphoses secrètes. Des phénomènes chimiques contraires semblent s'unir. Ces lucioles éparses ne dérivent jamais, mais de temps à autre, un mouvement du vent les éteint. Il se lève, les objets le regardent. Ce tableau parfait au tout bas d'une vie secrète. La forme des choses, les auras mystérieuses de certaines couleurs, des bribes d'histoire y tournent, souvenirs. Le vert du mercredi, le bleu du sommeil, blanc des départs, aluminium comme l'aile brillante des avions, les portiques des aéroports, et le grain de la peinture, du bois et du papier, les chiffres sur l'horloge, les lacets des chaussures et le dossier de la chaise devant le bureau. Cet accord-là où il circule, léger, un trait lui aussi, un infime mouvement, 8 heures, et c'est l'automne à New York.
Le médecin a un drôle de visage. Quand il se penche sur lui avec son sourire, l'enfant voit son nez pointé vers lui comme une aiguille ou un petit couteau. Il sourit. La salive fait briller ses lèvres. Ses yeux sont comme nus derrière les lunettes, peut-être à cause de la finesse, de la rareté des cils. Vert clair ou gris, une méfiance, un doute s'allume de temps en temps où la couleur s'altère. Le verre les fait sans doute paraître plus petits et plus distants. La peau autour de son cou est plissée. L'enfant suit un instant les mouvements de ses rides, une terre accidentée et secrète dont la faiblesse le saisit parfois d'un amour étrange, d'une pitié. Instrument froid dans la bouche, autour du bras, la pompe presse lentement le gros élastique noir, se relâche juste avant la menace. Il entend le soupir épuisé. Regardez en haut, regardez en bas. Les doigts tièdes lui tiennent la paupière et laissent une seconde autour de lui une odeur de tabac et de parfum. Pollen, foyers étrangers palpitant sous son œil. Les oreilles, le cou, puis le ventre et le dos, cou mat contre la paroi mystérieuse, pression dans la douleur qui, selon les jours, se diffuse ou se rétracte jusqu'à disparaître presque. Il y a une incertitude. Et la nuit, l'enfant cherche ses régions et appuie, comme pour vérifier encore. Les mains du médecin sont précises. De temps à autre, il grogne, répond à un signe invisible. Le cercle froid du métal le long de la colonne vertébrale et autour des côtes maintenant, qui sautent d'un endroit à l'autre. Dernier soupir, dernier grognement. Cliquetis du stylo, nouveaux examens, nouvelles prescriptions. Ni jour ni nuit. La chambre est le seul royaume. Là-bas luisent l'île et ses grands animaux attentifs. L'enfant ne s'approche pas, mais dans l'obscurité, il croit deviner cette présence patiente, souffle chaud et sage qui attendent de l'autre côté du fleuve. Si on ouvre la fenêtre, quelque chose vient errer autour de lui, dans la fraîcheur salée, une odeur plus âcre, souterraine. L'enfant se recouvre du drap, un ciel de coton rouge étendu sur lui. Il devine le relief presque invisible de son corps de l'autre côté. Au musée, il y avait des momies, certaines si petites, tendres et sèches derrière la vitre. Peu à peu, les choses reviennent derrière la trame du tissu. Table, chaise, rectangle sombre de la bibliothèque. À droite, le soleil de la lampe, étouffé de rouge, l'aveugle. Sa respiration l'asphyxie légèrement. Il compte. Il descend vers son cœur. Sous ses paupières fermées tremblent des ombres minuscules, danse affolée, chant furieux au tambour muet. Il faut traverser une petite panique avant d'atteindre la plage calme, l'eau profonde dont il a l'intuition. Il s'éloigne. Il descend encore. Il n'y a plus là ni ombre, ni champ. Là, il n'y a presque plus rien. C'est vaste et noir. La vie remue là et se ferme doucement sur lui. On entre dans sa chambre et on le regarde. Des mains le touchent, lui caressent le bras, le front. Il reconnaît les parfums, la peau. Il n'ouvre pas les yeux. Il entend les soupirs, les chuchotements, l'attention. Le dernier manteau glisse sur les épaules, légères hésitations. La poignée du sac qu'on emporte. Quelque chose se froisse. Enfin, la clé tourne dans la serrure. Métal gras et souple, mécanisme, un bruit à peine qui annonce l'autre silence. Le grand silence clair des heures du jour. Alors il se lève. Il marche jusqu'à la fenêtre. Là-bas, l'île appelle. Ce ne sont que des immeubles, pense-t-il. Les animaux s'absentent parfois et devant lui, les hautes formes vides règnent alors, sans ombre et sans mystère. Apparition lumineuse posée sur le fleuve. Au-dessus, le vent étale, creuse, lisse le bleu parfait du ciel, une couleur irréelle battue par une force d'une joie furieuse. Au sol, des tourbillons arrachent les feuilles des arbres et les emportent vers le soleil. Poussière, plastique, petit secret déchiqueté qui se désintègre aussitôt dans la pureté du jour. Où vont-ils ? Se demande l'enfant. Un peuple s'estompe. Leurs longs coups, leurs pattes grêles, l'extraordinaire lenteur gracieuse et confiante, leurs yeux noirs sont levés vers leur Dieu. Ils ne s'éloignent pas, on dirait qu'ils s'enfoncent, on dirait qu'ils rentrent sous la surface visible des choses, laissant derrière eux une ombre qui ne disparaît pas tout à fait. L'enfant entr'ouvre la fenêtre. L'argent des gratte-ciels s'éclaircit, lignes, angles aigus, passent le feu métallé des voitures, les fenêtres comme des miroirs, entre le vent sauvage, entre l'âme de ce pays toujours nouveau où l'enfant accoste chaque fois qu'il tend vers le fleuve son visage. D'abord, il ne l'entend pas. Ça monte, mêlé au cri grave de l'oiseau solitaire là-bas, et il écoute aboiements, sifflements, ces avertissements inquiets. Les ondes aiguës sur cette basse derrière, ce chant continu, l'enfant peut-être les confond avec les bruits de la ville, où toujours une plainte animale semble s'enrouler. Dessous la terre, la grande mécanique expire, gémit, force ses moteurs comme un grand cheval qui secoue sa tête soyeuse, et une fois encore, malgré la fatigue, se relève.
La forêt est un cercle qui part de son cœur et ne cesse de grandir. Chaque veine, chaque souffle, chaque frémissement se prolonge en tiges, feuilles, pétales, épines. Crosses dentelées peu à peu déroulées, fines, fraîches et froides, brillantes de leur vie nouvelle dans le sous-bois. Le corps de l'étrange animal est parcouru de frissons extraordinaires. Les vents soulèvent doucement son poil. Une caresse passe contre la peau grise, entre en lui. Dans les pattes, les oreilles, le palais, un fluide tiède circule. Ses colères, ses terreurs anciennes, son ennui, flétrissent et se dispersent dans l'air vif. Il ouvre les yeux. Les couleurs l'éblouissent. Des indigos, des plus clairs jusqu'au plus noir des verts, des roses indiens éclatent dans la lumière. Au-dessus de lui tournoient des ailes, des becs, de larges plumes chatoyantes, un jardin, un dôme de branches qui s'étend, calme comme la respiration d'un dormeur. Il entend le chant s'approcher et croître. Il se lève. Ses pattes vacillent d'abord, comme s'il était blessé ou ivre. Ce corps énorme qui tangue, tendu, ému, tiré par sa grande tête douce. Il y a mille voix qui résonnent et s'élèvent ensemble et arrachent sa poitrine vers le ciel. L'étrange animal s'est tourné vers un soleil inconnu. Lui aussi, enfin, veut lancer sa plainte et entrer dans la célébration. Le chant de l'étrange animal vient, étranglé d'abord, un meuglement terrible. Il doit arracher au silence de sa gorge ce grondement, ce râle qui a rempli son ventre, sa tête, et enfle en vain. Il doit pousser, encore et de toutes ses forces, puisse ce son jaillir au dehors, au-dessus de lui, vivant, étranger et plein. Puisse-t-il le porter assez haut, assez loin, avant qu'il s'effondre. Cris blanc des rêves où nous suffoquons. Dehors, les oiseaux penchent vers lui leurs belles petites têtes mécaniques. L'azur lointain du ciel. Les fleurs ouvrent leurs cœurs gonflés de poudre, répandent des vanilles, des menthes froides. Un sel fin et rosé coule le long des tiges. La panique le cogne. Il est envahi. Et puis c'est brutal, sans effort soudain. Le son a jailli hors de lui, métamorphosé. La forêt se déploie. Arbres millénaires, lianes, lierres, fruits rouges et orangés fermés sur leur sucre, brillant comme d'énormes gouttes suspendues à travers les feuilles. Là-bas, les flamants s'immobilisent. Un immense perroquet vert s'approche et penche son front bleu. Les singes, les éléphantaux, les jeunes tigres maladroits interrompent leur jeu. Des ombres se retirent. Dans les nœuds des arbres, le bois craque comme si une flamme y crépitait. Les vieillards ferment leurs yeux. Quelque chose de très ancien s'incline légèrement. L'étrange animal chante.
La porte se referme lentement, glissant sur ses charnières huilées, silencieuses, parfaites. Et comme le pen s'enclenche, soudain l'enfant est jeté dans cette obscurité. Un garage, pense-t-il d'abord à cause des odeurs de pétrole et de détergent. Un souple écho métallique continue de cogner un peu, puis se stabilise dans un grésillement continu. C'était pourtant là, avait-il imaginé. Là, derrière les murs, tout près, il suffisait d'y aller. Il ne voit pas encore les veilleuses. Le vide se déploie autour de lui, noir, profond, où les choses s'enfoncent. Il ne peut faire un pas. Une main bienveillante le tient immobile. Il n'entend pas sa respiration. Une machine couvre tous les bruits, soufflerie, chaufferie, mille tuyaux de l'organisme où il vient d'entrer travaillent ensemble d'un ahannement morne, étouffé. C'était pourtant là, mais nul chant ne lui parvient. Il ne voit pas les trois raies claires de la porte juste derrière. Sa chambre dérive loin de lui, un pays bientôt inaccessible. Dans certains contes, on meurt de se retourner, se souvient-il une seconde. Il y a en lui un bourdonnement, une sourde neige de pensées s'agite et danse en tous sens. Il reconnaît cette chaleur qui brusquement lui monte à la tête comme de l'eau. L'ombre entre en lui. Il ferme les yeux. Il l'entend alors. Et c'est pourtant un autre chant, plus grave et plus étranger, plus vaste, comme si un cœur archaïque y battait, souverain, énorme. Un chant aussi lointain, aussi saisissant que certaines nuits les minuscules lumières des étoiles vivantes. Il entend la voix de l'étrange animal, et aussi celle de la couleuvre, et celle du loup, celle de l'éléphant, du tigre, du tamanoir. Il y a là un gisant. Et d'abord, l'enfant ne le voit pas. L'enfant n'a pas peur. Il s'allonge sur le plancher, comme amolli par la poussière, l'abandon. Leurs têtes pourraient se toucher. Les murs se courbent doucement. Il ne sait pas comment sont les ours ou les loups avec les leurs lorsqu'ils sont blessés. Il s'approche encore, doucement. Son bras s'étend au-dessus des pattes, du ventre. Le plancher craque et s'enfonce. Il se couche. Il pose son front contre le front de l'autre. Il l'entoure de son bras. Il se blottit contre lui. Contre lui, le cœur de l'étrange animal bat comme une chose vivante et fatiguée dessous la fourrure. Son odeur lui vient. Forêt. Musc, vent froid et salé, chair secrète. Il s'y engouffre. D'où viens-tu ? Demande l'enfant. Autour, les ombres se sont rapprochées. L'étrange animal gémit en tournant la tête. D'où viens-tu ? Aimes-tu l'eau ? Le pain ? Aimes-tu les graines ? Les feuilles ? Lève-toi. Viens. Lève-toi vers moi. C'est la nuit déjà. Quelque chose passe devant le soupirail et un instant, le souvenir du chant vient là comme une ombre, passant furtif, somptueux secret dans les grilles de la cave. L'étrange animal ne dit rien, mais sa tête approche en un effort douloureux de la main qui s'avance à nouveau. Et doucement, sa langue violette lèche la peau neuve de l'enfant. Ainsi, l'enfant et l'étrange animal se rencontrent-ils ?
Un autre médecin vient. C'est un jeune homme, il est pressé. Il est distrait aussi. Sitôt arrivé, son regard semble poursuivre une chose invisible, un insecte ou une pensée. Il voit à peine l'enfant, il n'écoute pas les questions du père. Peut-être ce métier n'est-il pas le sien. L'enfant regarde son visage nerveux, les cheveux rasés sur la nuque, les rayures régulières de la cravate. Peut-être est-il banquier ou avocat, pense-t-il. Il sent la menthe et les fougères artificielles. S'il parle, on dirait qu'il ne s'adresse à personne, mais l'enfant inspire, expire, se tourne sur le dos, sur le ventre, et tousse. Langue, yeux, oreilles, 5 coups légers le long de la colonne vertébrale. Ces médecins, que savent-ils ? Se demande l'enfant. La puissance de nos désirs est invisible. Sur le poignet bronzé du jeune homme, la trace pâle d'une montre apparaît par instants. Il est nerveux. Il cherche son stylo dans la poche de sa veste, puis dans son cartable. La lumière s'étale sur le cuir. À nouveau dans sa veste. L'enfant l'a vu, mais il ne dit rien. On dirait un cigare avec une bague de papier rouge et or. Le médecin dévisse le bouchon avec précaution et de ses doigts très propres, blancs et soignés, il écrit une liste de médicaments en soulignant quelques noms. Après qu'il est sorti, son parfum sophistiqué, sa légère arrogance habite un moment la chambre, comme un reproche muet. Mentir est facile. Chaque jour, l'enfant descend dans la cave. Les escaliers, les lampes, la pénombre où s'enfoncent comme dans une fumée les murs et les angles, le roulis des câbles, les ascenseurs glissant sur leur trajectoire verticale, les veilleuses rouges l'accueillent, le saluent, le guident, et le presse. Rien ne menace son chemin. Sa joie l'entrave un peu, elle est trop lourde, elle l'encombre. Ou est-ce une crainte qu'il ne comprend pas tout à fait ? La porte là-bas est toujours ouverte. Les gonds lâchent un crissement comme le miaulement d'un chat lorsqu'il entre. Et souvent, même s'il ne dort pas, l'étrange animal lève la tête brusquement, comme étonné, et ses yeux s'étirent un peu vers les tempes. Il sourit, pense l'enfant. Il apporte du pain, de l'eau, un jour de la brioche. Puis il apporte des biscuits colorés, rose pour la fraise, vert pour la pistache ou l'amande mauve pour la myrtille. Il apporte des fruits, bananes, pommes, oranges, du lait. Il les laisse en partant dessous le soupirail. Un jour, il apporte aussi des fleurs. Dans les temples, les yeux de pierre des sphinx ne se ferment jamais. Il ne baisse la tête ni vers les offrandes, ni vers les mortels agenouillés. Mais l'enfant croit que la nuit, leurs grands corps de fauves se glissent souplement entre les colonnes de granit pour atteindre les autels, et qu'au point du jour, ce sont ces rois qui soufflent les bougies. Les vivres disparaissent. La mère de l'enfant revient avec des chocolats dorés, des petits pains, des galettes fines dont la pâte fond aussitôt sur la langue. L'enfant glisse les boîtes sous les coussins, dans les tiroirs. Le rouge lui revient aux joues et une force nouvelle dans les os. Le soir, on compte les gouttes et les comprimés. Les petites fioles sur la table de nuit répètent la liste du jeune docteur avec une sévérité méprisante. Elles le surveillent. L'enfant dissimule les gélules jaunes et rouges dans sa main et laisse de côté le verre d'eau trouble. Plus tard, il ouvre la fenêtre. Les grands animaux de l'île le regardent maintenant avec curiosité. Il lance les pilules et l'eau de toutes ses forces, mais il ne les atteint jamais. À la lumière du jour, les yeux de l'étrange animal se teintent de vert et de petites paillettes métalliques s'y allument. L'enfant sait maintenant l'odeur de sa fourrure, la forme des côtes, des muscles, ses pattes faites de cuir et de bois, son museau luisant, percé de trous froids, minuscules et frémissants. Il a vu sa langue passer le long des dents courbées comme celles des requins, ses oreilles fines qui se lèvent et s'abaissent au moindre bruit. Il reconnaît l'inquiétude, la joie et la paix lorsqu'elles le saisissent. Il lui caresse le dos, le cou. L'étrange animal se retourne sur le ventre et, comme un chat énorme, grogne de plaisir en se frottant au béton.
La nuit, les animaux de l'île s'approchent de la fenêtre de l'enfant et le regardent dormir. Il arrive qu'ils entrent dans son sommeil. Certains sont tendres et cherchent ses caresses. D'autres le flairent, tremblent et grognent. L'enfant tire les stores et le fleuve lent disparaît. La chambre est calme. Les choses se tiennent droites et immobiles dans les claires lumières des lampes. Parfois, quand il se tourne ou saisit brusquement un objet, l'odeur de l'étrange animal passe près de lui. « Mais cet animal n'existe pas », disent la table, la chaise, les larges plis de rideaux, le grain de l'air et l'horloge. Là-bas, peut-être l'étrange animal dort-il déjà. « Nous veillons sur toi », disent les murs, la poignée de la porte et les livres. « Tu ne sortiras pas d'ici, et maintenant, endors-toi ». Où est l'étrange animal ? Nous sommes plus loin l'un de l'autre que s'il vivait dans la lune, pense l'enfant. Lorsqu'il ferme les yeux, son lit s'enfonce légèrement dans le mur. L'enfant rallume la lampe. Un brouillard lumineux s'étend sur les murs, rampe sous la table, le lit. Derrière la vitre, les animaux de l'île reculent soudain. Ils sont quelques-uns immenses, a fixé la fenêtre de la chambre sans trembler. Le plus grand est blessé. Le long de sa grosse tête de cheval, une fente de limaille luisante s'étend. Des pastilles pâles passent, petite lune qui éclate doucement contre sa paupière. Derrière, la nuit a avalé le fleuve. Les fils de voiture s'interrompent et reprennent. Phares blancs, phares rouges, suspendus sur les ponts le long des routes, s'enfonçant au-delà de la ville, vers les terres calmes, vertes, de l'intérieur. Des lumières s'élèvent qui éblouissent les façades de pierre et de verre,
perce le ciel et égare les oiseaux. On dîne dans les appartements blancs, le sang profond des vins tourne avec douceur dans les verres, d'énormes lustres de cristal brillent au-dessus des visages corrompus par la fatigue. Dans la fumée des cigarettes, certains hommes ressemblent pourtant à des dieux, certaines jeunes filles à des biches gracieuses. Leurs gestes s'interrompent brusquement, comme si l'enfance un instant se froissait, s'effrayait d'un appel sourd. Plus loin, les banlieues, la solitude et le travail. Les enfants dorment. De vieilles montres reposent sur les tables de nuit. Plus loin, l'oubli, et plus loin encore, l'océan. Il frappe. Quelques coups légers nettent sur le verre. Lorsque l'enfant se lève, il croit sentir en lui un autre qui guide et devance ses gestes. Il va droit à la fenêtre. Son corps est plus lourd et plus sûr. Il tire doucement le store et il se regarde. Les gros yeux des animaux de l'île semblent aveugles. L'enfant n'y voit que son reflet. Il comprend cependant et ouvre grand la fenêtre. La nuit entre dans la chambre.
Au zoo, l'enfant allait voir les girafes gracieuses, les zèbres qui s'éloignaient comme de grands ânes peints, les hippopotames blancs et les lionceaux. « Où est-il ton animal ?» demandent ceux de l'île à l'enfant silencieux. La chambre est envahie d'ombre. Il entend leur rire. On dit qu'il ne ressemble à nul autre. Il cherchait leur regard. Les girafes passaient dans l'enclos et plus loin, les horribles autruches, le paon, les aras. Ils glissaient dans leurs yeux, minuscules formes attrapées dans la pupille et qui dérivaient comme un cristal. Ils leur parlaient, une langue silencieuse, qui ne les troublait jamais, n'interrompait pas leur morne ronde. Un serpent un jour avait bondi vers lui. Le plus grand s'approche, et aussitôt, tous s'avancent. La foule entre dans sa chambre. L'enfant n'a pas peur, mais il ferme les yeux. Les pattes, les griffes, les os, les dents s'enfoncent dans le bois, le tissu, le béton. Quelque chose glisse, tombe et se brise. Les animaux de l'île renversent silencieusement les tiroirs, ouvrent les carnets, les livres et les lettres. Les secrets se dispersent en débris colorés. Devant certaines images, ils s'arrêtent. Leurs gestes sont gauches, immenses. La porte de l'armoire cède, puis la bibliothèque. Les animaux de l'île lèchent le papier, les cotons colorés des chemises, des éclats de miroirs, de verres brisés. Dents, langues, lieu de fer féroce et vide. Le plafond est ouvert d'un grand coup de tête et se déchire comme du papier. L'océan monte doucement dans la chambre et le long des jambes métalliques. Il tourne autour du lit. L'enfant n'entend pas leur grognement. Ils ne le trouveront jamais, pense-t-il tranquille. Une rage, une fureur les prend. L'un mugit, on dirait qu'on lui arrache le cœur. Un autre répond aussitôt. Le plus grand des animaux de l'île hurle. Ses cornes immenses se balancent d'avant en arrière et semblent devoir lui emporter le cou. Une plaie s'ouvre, puis une autre. Leurs yeux se ferment. Ils frappent le sol, les murs, leurs coups répondent à un ordre, une mécanique étrange. Écoute, se dit l'enfant, on dirait qu'il danse. Table et chaises, lampes et livres, cartes, images, personnages recousus, animaux estropiés, améthystes et malachites dans leurs boîtes de verre, guerriers enveloppés dans la soie, allongés comme de petits morts, couteaux, bracelets prudemment dérobés, branches et bois aux formes étranges, coraux et graines sèches, talismans, armes magiques, dessins et plans, les mille objets de l'enfance endormis éclatent dans un ciel factice. Le long d'un tourbillon boueux, une petite déesse de bronze fuit vers le centre de la terre. Débris du jour et des années, nos mains sont vides désormais. Était-ce leur rire, cet écho métallique? Et que disait-il? On entend les cargos parfois et les cris des oiseaux migrateurs. L'été, l'enfant espère les distinguer devant la nuit, sur la ligne d'horizon, des formes sombres au bord des lumières excessives de la ville, vols de faucons, navires ou des ombres qui bougent et sans raison se défont. « Je vais dormir », pense l'enfant dont le corps est plus léger qu'une plume. La chambre devient la nuit même.
D'abord, il ne peut bouger. Malgré la tension des muscles, une force passive tient immobile le corps enseveli, serre le ventre, les pattes, l'échine et le cou. L'effort inutile cogne dans son cœur prisonnier. Encore. Si près de lui les longs rubans des roseaux, les pousses nouvelles, les grains d'argent perdus dans le sable. Encore. Le ciel pivote légèrement. Et le plan du monde, quelque chose s'éloigne un peu. Un petit cri sec lui reste dans la gorge, comme un miaulement. Une guêpe vole, inaccessible. Un bourdonnement de poussière et d'ailes s'enfonce dans le crâne de l'étrange animal. Le mouvement d'une ombre à travers les nervures, c'est sans doute un point dans le ciel qui faiblit. S'éloigne. Quelque chose se renverse. La soif le serre si vivement. Il est debout. Autour de lui, les formes tremblent. Les feuilles ont pâli. Dans son ventre, un creux durci. La lumière est trop haute. Une fièvre a écrasé les fines flèches des roseaux. Où est-ce le soleil qui soudain tourne et grandit? Cette chaleur-là n'effraie plus l'étrange animal. C'est ici. Il y est presque. Il court vers le lac. Dans sa gorge, une veine large comme le poing se contracte et retient un instant la vie. Sans entraver sa course, cependant. Et peut-être l'étrange animal ne devine-t-il rien de cette interruption? Alors que ses sabots roulent de plus en plus follement, que s'écarte bambous, roseaux et arbustes, certains hauts, verts, immenses comme les arbres des anciennes forêts, d'autres si secs qu'on les dirait dessinés dans la cendre. Fleurs brunes aux longues tiges de bois ou de pierre, araignées immobiles, inclusions rongées, minuscules autels d'or gris et de galets, l'étrange animal ne vous voit pas. Devant lui scintille soudain comme la mer, le lac immense et la tache noire du soleil.
Le lac est une île gardée par les arbres, qui tantôt la masque, tantôt se courbant, ployant comme des cordes, en révèle des zones et des passages mystérieux. La terre est incertaine. Un pas et le chemin se ferme. Les cieux et les eaux sont à peine séparés. Des formes attendent dans l'argile qu'un rayon de chaleur les touche. Certains rochers couverts de mousse crissent et chantent. Les taches minuscules des grenouilles jaillissent parfois, bleues, marbrées, rouges, striées d'ocre, les pattes écartées sur le vide. Il y a peut-être des montagnes au loin, irisées de neige et qui se mêlent au ciel. Les bruits voyagent longtemps avant de se cogner contre la pierre. Cependant, comme un animal ou une statue, un silence solennel garde les alentours. Au-dessus du lac, il n'y a rien. Nul battement d'ailes, nul vol, nulle quête.
Il entre dans une autre forêt. Arbres de sel, d'os, d'animaux d'argile, fleurs de sable ou de pierre. Des souvenirs, des images se disloquent. L'excès de lumière écrase l'étrange animal. On n'entend ni le vent, ni le silence. La roue tourne, où les choses reviennent et s'effacent peu à peu. Adieu les jungles, la joie, adieu la vie verte et nerveuse. D'autres nuages courent dans le miroir de l'eau nouvelle. C'est ici. Il est arrivé. Comme c'était loin, pense soudain l'étrange animal. Un éblouissement irisé lui entre dans les yeux. Le ciel se dilate, se distend. Quelque chose se renverse et poudroie devant lui. Ses pas ou son sang battent à son oreille une drôle de mesure. Sous ses paupières bouge un vert phosphorescent. Là-bas, l'eau brille à nouveau, comme si un soleil y était enfermé. Une main lui serre légèrement la gorge. Sa langue, ses dents deviennent de papier. Alors qu'il approche et que s'écarte, les pics secs des bambous ouvrant l'allée de sable bientôt jusqu'à la rive. C'est ici. De longues taches jonchent le sol comme des feuilles. Palmiers, le soleil couche leurs ombres. Flamants dont l'étrange animal devine les cercles rouges. Adieu les bouquets de pivoine, les girafes lentes. Adieu les grands draps blancs des jeux. De quelle chanson croit-il se souvenir alors? Il y avait un jardin et un tamanoir. Une porte peinte en or. Sa tête tourne. I wish you a new life. Des traînées pâles s'arrachent du ciel. Azur, éther, les nuances vertes et jaunes tournoient sans se poser. Le vent passe dans sa fourrure, sous son ventre, entre dans sa bouche. Une force vide, libre, le traverse. Son corps s'allège. Peut-être ne touche-t-il plus le sol.
Là-bas, de l'autre côté, attendent les girafes, les lions, les éléphants. Ils sont si loin. L'étrange animal les distingue à peine. Ils se tiennent dans une ombre immobile et le regardent. « Viens !» disent les fleurs, les fourmis, les palmiers et les lueurs vides du soleil. « Viens !» disent les reflets froids de l'eau. Lorsqu'ils s'approchent, le lac a pris la couleur de l'étain, du plomb. Une mélodie froide erre dans son oreille. « Comme cette eau est noire !» pense l'étrange animal. Il y avait un tamanoir, des fleurs presque folles, énormes, des fourmis. Un secret était blotti contre lui et le protégeait. L'eau a ce goût ancien, forêt de sel, arbre d'os, se souvient l'étrange animal.
Temple, fleuve, ruine, On pose des couronnes de fleurs claires au front des filles. Les enfants dorment. Un vieil homme attache sa montre à son poignet en pleurant. Inde, pirogue, marche scellée dans le temps qui monte vers les statues dont les visages sourient. On allume des bougies dans des autels. On danse. Une enfant minuscule, droite comme une petite flamme, tire par sa longe un bœuf blanc qui boite. Dans le fleuve derrière eux, des carcasses dérivent lentement. Les femmes accroupies sur la berge lavent les assiettes, les linges, oranges, citrons. Devant des cabanes, des chaises en plastique, décolorées, abandonnées et joyeuses.
Vieille Europe, cimetière. Les dortoirs sont vides. Dehors, il y a des roses, des oiseaux. Ce sont les mêmes montagnes et le même ciel. Mais ici, plus personne n'apprend, ne joue ou n'espère. Une femme se jette d'un pont, les poings serrés, silencieuse. Les sirènes, les lumières bleues glissent dans les rues. On se penche vers les corps allongés. Au café, un jeune homme se lève et rougit. Il n'a pas touché son verre. Petite gare, mur de briques rouges. Est-ce la fatigue ou la honte? Les dos sont voûtés. À midi, sur les trottoirs, les ombres rétrécissent, méfiantes. Assis face à son piano, un enfant ferme les yeux tandis que la musique s'étend dans la chambre. Quelqu'un l'attend. Il ne viendra pas. Des cloches sonnent. C'est toujours l'heure. Des chiens gémissent un peu. Des hommes se retournent dans leur sommeil. On construit des maisons plus hautes et plus blanches. On casse les rues. Des arbres sont arrachés. Les villes brillent malgré la poussière.
Ce voyage n'a pas de fin. Ce jardin n'a pas de fin, pense l'étrange animal. Il est arrivé, cependant. Il a atteint le bord du monde. S'il se retournait, il verrait peut-être l'enfant qui là-bas le regarde. La nuit vient là, d'un coup.
D'où viens-tu ? Demandait chaque jour l'enfant. Sais-tu nager ? Voler ? Quelle est ta langue ? Et encore, viens avec moi. Ici, il y a un parc immense. Les arbres semblent plus vieux que la ville. Ils ont l'âge du fleuve ou du ciel. Les écureuils vivent des pommes qu'ils volent. Les nuages sont tenus dans des lacs. L'herbe brille. On entend parfois un cri qu'on dirait né de notre propre cœur. Ce sont les animaux du zoo, dit-on. Un ours blanc ou un crapaud effaré. Personne ne le croit tout à fait. Nous serons invisibles. La nuit, les rues s'en mêlent en labyrinthe. Nous n'aurons pas peur de nous perdre. Certains endroits sont noirs et au bord du désert, mais d'autres sont éblouis par des milliers d'ampoules qui éclairent presque comme un soleil. Personne ne dort. Les filles ont les lèvres très pâles, leurs cheveux flottent sur leurs joues et leurs fronts. Des magiciens font surgir dans leurs mains des billets de banque, des cartes à jouer, du feu. La fête est ouverte. Le jour s'interrompt à peine. Le matin, avant que je n'arrive, qu'espères-tu ? Je ne sais pas si tu m'attends. Moi, je pense à toi sans cesse. Ainsi, il me semble que nous ne sommes jamais séparés. Avant, tu vivais dans une forêt. À cause de tes longs poils, de tes sabots, ou à cause de ton odeur. La terre, l'humus, les écorces. Je connais certains de tes souvenirs. Tu aimais courir. La terre était sans fin. Tu avalais le vent, la course te saoulait de joie. Elle cognait dans ta tête, dans tes muscles, longtemps après que tu t'étais arrêté. Tu dormais sous les fougères, tu fouillais les feuilles, tu cherchais les plants verts, sucrés des jeunes chênes. Tu n'étais jamais triste. Te suffisaient ces chasses et le sommeil tranquille de la nuit. Tu jouais avec des choses minuscules, des pierres, des hannetons, des glands. Tu suivais un chemin que nul autre ne pouvait deviner. La solitude t'enchantait et toutes les saisons. Tu buvais l'eau des ruisseaux et léchais la glace où les herbes, les pierres et les insectes étaient emprisonnés. Tu ne craignais nul bruit, les galops, les cris, les jappements. Tu me comprends? Tu m'entends? Dans la chambre de ma mère, il y a un violon très vieux. Le bois est fêlé par endroits, comme de la porcelaine. Les cordes sont détendues. Autour des chevilles, elles s'enroulent en spirale désordonnée, un peu folle. Parfois, le fermoir de la boîte résiste et on ne peut pas l'ouvrir. Parfois, le petit pen glisse d'un coup sec. Le violon est entouré d'un foulard de soie rouge et or qui sent l'iris, l'encens et la paraffine. Il repose là, raide. On dirait qu'il attend le retour de quelqu'un. Je ne sais jouer d'aucun instrument, mais je me souviens de certaines chansons.
C'était « L'étrange animal » de Béatrice Leca, avec Florent Houlier, Sophie Bouilloux, Dominique Raymond, Michel Sidoroff. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Michel Sidoroff.